d'être dans l'autre du ciel. Alors, petite grâce à créer pour montrer que la grâce participée, créée, vous devez la comprendre formellement dans le point de vue de la Sainte Trinité en vous. Et vous êtes obligé de vous dire, oui, vous ne pouvez pas dire la grâce. Il ne vous dit pas l'agapé incréé. Il ne dit pas que Dieu est l'agapé incréé. Il est amour. Toute sa force, il est amour. L'amour comme tel n'implique pas, premièrement, le point de vue de la participation. Tandis que la grâce l'implique, et c'est pour ça que vous êtes obligé de dire la grâce incréée. Vous voyez ? Voyons tout de suite l'article 10. La plénitude de la grâce appartient-elle en propre au Christ ? Alors, la première objection, je vous l'ai lu tout à l'heure, donc c'est le point de vue de Saint Luc. Est-ce que je peux dire que seul le Christ a la plénitude de grâce? Ça va être intéressant encore, pour toujours le point de vue de la participation. Alors, le 7 contre 1. On attribue au Christ la plénitude de la grâce pour cette raison. Plenitud gratia attributur grae. Christo in quantum est unigenitus a patre. Donc on attribue au Christ la plénitude de la grâce pour cette raison qu'il est le Fils unique du Père. Il est écrit en effet dans Saint Jean, nous l'avons vu comme Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Mais une telle filiation est propre au Christ. La plénitude de grâce et de vérité doit donc aussi lui appartenir en propre. La plénitude de la grâce peut être envisagée d'une double manière. Vous voyez qu'on est obligé d'être duplicitaire, parce que le Christ est Marie. Duplicitaire. Soit par rapport à la grâce elle-même, soit par rapport au sujet qui possède la grâce. Du côté de la grâce elle-même, la plénitude consiste à la recevoir à son plus haut degré. Ratio gratiae, là, vous voyez, vous retrouvez le point de vue de la ratio gratiae, du côté de la grâce prise par elle-même. Du côté de la grâce elle-même, la plénitude consiste à la recevoir à son plus haut degré, qu'il s'agisse de son degré d'intensité essentielle ou de son degré d'extension virtuelle. On possède alors la grâce à la fois et à la manière la plus excellente qu'il est possible de la posséder, et selon toute sa puissance effective de rayonnement. Donc vous retrouvez la même distinction que précédemment. Une telle plénitude de grâce est propre au Christ. Et c'est pour ça qu'il prend ratio gratiae. C'est la grâce prise en elle-même dans ce qu'elle a de plus elle-même, et donc qui a une plénitude qui est propre au Christ. Du côté du sujet, la plénitude consiste à recevoir la grâce dans toute la mesure réclamée par sa propre condition, soit qu'il s'agisse du degré d'intensité fixé par Dieu et auquel il lui faut parvenir selon cette parole de l'apôtre, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Soit qu'il s'agisse du degré d'extension virtuelle grâce auquel le sujet se trouve capable d'accomplir tous les devoirs de son état ou de sa charge. Selon cette autre parole de l'apôtre, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été accordée cette grâce d'éclairer les hommes. Une telle plénitude de grâce n'est pas propre au Christ, mais peut être communiqué par lui aux autres hommes. Donc c'est assez facile à comprendre. Oui, et ça c'est intéressant parce que c'est directement lié à la participation. Parce que la grâce implique participation, vous avez un double regard. Vous la regardez en elle-même, ratio gratiae. Et puis vous la regardez par rapport à son sujet. Qu'elle est participée, elle est reçue. Alors, vous pouvez regarder la plénitude de deux manières, en fonction de la ratio, en fonction du sujet. Et la ratio gratiae, et ça c'est intéressant parce que c'est la ratio gratiae. Hein. Donc vous voyez, la distinction de l'intensité ici, regarde la ratio. L'intensité. Et la ratio implique les deux. Oui. Tandis que l'extension a quelque chose de différent. C'est moins ratio. En sens ça, vous pourriez dire ce que vous disiez, être et vie, sous ce point de vue-là, vous voyez. Mais c'est pas être, j'ai toujours dit, j'ai la peine d'apprendre être et vie par rapport à la grâce, parce que quand on prend être et vie par rapport à la grâce, c'est ce que dit Jean de Saint-Thomas, il dit le point de vue de l'être, c'est matériel, le point de vue de la vie, c'est formel. Et je crois que c'est vrai, c'est pour ça que c'est assez délicat. J'aime mieux prendre ratio, quand il pense à l'intelligibilité que nous avons de la grâce. Alors, l'intelligibilité que nous avons de la grâce, la ratio gratiae, fait comprendre que ça implique ces deux aspects, le point de vue de la proximité, le point de vue de l'effet, les deux aspects sont impliqués dedans, et là nous sommes en face de la plénitude. Il ne peut pas y avoir une grâce plus parfaite que celle-là. C'est en ce sens-là que saint Thomas du reste dira que la grâce du Christ est infinie. Il ne peut pas y avoir de plénitude plus grande. Tandis qu'au contraire, de l'autre côté, nous sommes en face des sujets. On pourrait dire que chaque saint, du fait même qu'il est saint, a la plénitude de la grâce. Tandis que ceux qui ne sont pas encore saints, sont en voie de la plénitude. Mais ils ne l'ont pas encore, parce que s'ils étaient saints, ils auraient la plénitude. À ce moment-là, on est bon pour le ciel. Alors, réponds. La bienheureuse Vierge est appelée pleine de grâce, non pas en raison de la grâce elle-même, qu'elle n'a pas eue à son plus haut degré, et dont elle n'a pas mis en œuvre tous les effets, mais parce qu'elle a reçu la grâce qui devait suffire à cet état de mère de Dieu, auquel Dieu l'avait appelée. Hein? Ça ne voit pas très bien. Il faut grincer des dents, là. Oui. C'est, on se demande si on ne peut pas aller plus loin que dit saint Thomas, mais ça. Oui, on peut mettre un point d'interrogation là-dessus. Que je me demande toujours si dans l'ordre surnaturel, on ne peut pas faire un raisonnement un peu différent. Dans la lumière même de la très sainte Trinité. Et là, que Marie est impliquée à un devenir, moi j'aurais insisté là-dessus. J'aurais insisté plutôt sur la question du devenir, que ce qu'il prend ici. Parce que là, il y a quelque chose qui me gêne. Vous voyez ? Alors, j'aurais pris plutôt le point de vue du devenir. J'aurais dit, la plénitude de grâce de Marie implique un devenir. La plénitude de grâce du Christ n'implique pas de devenir. La plénitude de grâce du Christ est tout de suite au terme. Tandis que la plénitude de grâce de Marie implique un devenir. Au terme de sa vie, est-ce que la plénitude de grâce de Marie n'a-t-elle pas atteint la plénitude de grâce du Christ ? Là, une très grosse question.
Il est dit dans l'Écriture que le Christ croissait en sagesse et en grâce.
Ah oui, mais ça n'a pas croissé au point de vue de la grâce. Hein. Il croissait au point de vue de l'expérience. Ce n'est pas au point de vue de la grâce.
On va dire qu'il croissait lorsque la grâce s'emparait
de Non. Autrement, alors, on ne peut pas dire la vision béatifique.
Si.
Non.
C'est la grâce qui s'empare de la nature humaine.
Ah oui, mais si elle s'empare de la nature humaine, elle n'a pas l'extension plénière. Elle n'a pas le point de vue de l'intensité du côté de l'effet.
Il a tout le point de vue de l'effet.
Alors, il ne peut pas croître. Il ne peut pas croître. Il n'y a pas de croissance de la grâce dans le Christ. Il y a une croissance de connaissance expérimentale.
Une croissance des effets de la grâce, donc pas une détention dans le Christ.
Non. Vous ne pouvez pas. Je ne crois pas.
On ne peut le voir par rapport à la charité.
Quoi ?
Le Christ n'a pas cru.
Oui, il n'a pas augmenté.
Et les œuvres de mesure absolument.
Je crois qu'elle n'a pas augmenté, la charité du Christ n'a pas augmenté, mais il y a eu une expérience toujours plus grande de son mystère de grâce. Alors là, oui, je dirais oui, du côté de l'expérience, connaissance expérimentale.
De l'extension.
Oui, mais pas de l'extension. Non. Il y a une plénitude de grâce. Dans Marie, il y a un devenir. Un devenir dans l'ordre de la grâce. Il y a une croissance en Marie. C'est pour ça qu'elle est le modèle de la croissance. Et je, vous voyez, parce que ce que dit saint Thomas là, limite. Alors que je crois qu'on pourrait dire que, comme dans la très sainte Trinité, la distinction du Père et du Fils ne se prend pas du côté de l'intensité, mais du côté de l'ordre. Et c'est du côté de l'ordre qu'on peut prendre une distinction entre le Christ et Marie. C'est que Marie reçoit tout du Christ en donnant tout à Jésus. Tandis que Jésus, lui, est source pour Marie. Donc il a tout donné. Il reçoit tout de Marie. Très bien, mais ce n'est pas Marie qui fait augmenter Jésus dans la grâce. Oui.
Ça, on peut peut-être le dire de manière encore plus formelle à cause du dogme de
l'Église. Oui.
Il n'y a rien qui vient limiter dans la dogme de Marie.
Oui, mais ce n'est pas entièrement l'Immaculée Conception. Parce que l'Immaculée Conception est en point de départ.
Non, justement. L'Immaculée Conception est ordonnée à cette plénitude de grâce. Il n'y a rien qui peut observer.
C'est-à-dire que là, saint Thomas se place au niveau de l'Annonciation, je pense qu'il est au niveau de la parole de Dieu.
Ah non, non. Oh non, oh, pas uniquement, c'est vraiment la réponse de saint Thomas, je crois, est du côté plénitude de grâce. Vous voyez, quand vous attribuez, il prend...
Pleine de grâce, donc c'est l'affirmation de l'Écriture à un moment donné de la vie de la Sainte Vierge.
Ah, c'est plus que ça.
Il n'y a pas d'autre donnée au point de l'Écriture.
Ah, nous avons même, nous avons l'Assomption.
Ah oui, mais c'est de cette tradition, l'Assomption.
Non,
mais je veux dire, c'est pas donné immédiatement.
Ah, c'est le dogme. Le dogme a exactement la même valeur que l'Écriture. C'est simplement pour essayer de comprendre, vous voyez ce que je veux dire. Je prends le raisonnement de saint Thomas. Bon, quand nous lisons le raisonnement de saint Thomas, je crois, du moins, je dis, on peut aller plus loin. Le raisonnement de saint Thomas reste juste, mais on peut aller plus loin. C'est simplement ça que je voulais vous montrer. Et vous voyez, le raisonnement de saint Thomas reste juste, et tout à fait comme vous êtes tout à fait d'accord, si je prends par rapport à l'Annonciation. Mais saint Thomas ne restera pas la bienheureuse Vierge Marie est appelée pleine de grâce. Son d'étude de la patience. Non pas en raison de la grâce elle-même, qu'elle n'a pas eue à son plein degré, et dont elle n'a pas mis en œuvre tous les effets, mais parce qu'elle a reçu la grâce qui devait suffire à son état de mère de Dieu, auquel Dieu l'avait appelée. Vous voyez ?
Là, donc, c'est quand même l'imitation, finalement, d'une certaine mesure, de la vocation de la Sainte Vierge.
Oui, il y a
l'imitation en fonction de sa maternité divine.
Oui.
Mais évidemment, après, sa maternité divine, que sa maternité, par exemple, par rapport à la mère de l'Église,
oui.
Donc il y en a, on peut dire qu'il y a eu un sursaut, enfin, une nouvelle infusion de grâce, disons.
Oui, et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis qu'on peut aller plus loin, dans ce sens-là. Oui. On peut aller plus loin dans ce sens-là que de fait, plénitude de grâce là est limitée, et c'est toujours ce raisonnement que prend saint Thomas. Alors, c'est le raisonnement, je comprends très bien, qu'il prend ici, c'est normal qu'il le prenne ici, c'est pas du tout. Mais je crois que nous pouvons aller plus loin. Oui, c'est simplement ça que je souligne. Oui.
Comment peut-on expliciter cette plénitude si on se rapporte à la division, intensité, extension, et proximité de la source, etc.
Je dis simplement qu'en Marie, il y a tout ceci écrit dans un devenir. Donc, si je parle de la plénitude de grâce de Marie, je peux parler de la plénitude de grâce de Marie aux diverses étapes. Mais si je parle simplicitaire de la plénitude de grâce de Marie, je ne parle pas des étapes, je parle du terme, forcément. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est pour ça que je dis, la différence entre la grâce du Christ et la grâce de Marie doit se prendre en premier lieu du fait que la grâce du Christ atteint immédiatement son terme, l'alpha et l'oméga, sont impliqués dans cette ratio gratiée du Christ. Et c'est ça le caractère propre de la plénitude de grâce du Christ, alors que la plénitude de grâce de Marie implique un devenir.
Mais la proximité là, de la source, est-ce que ça veut dire que Marie rejoint cette même proximité que le Christ?
Au terme, elle peut le rejoindre, il n'y a pas de raison.
Le
mais elle n'est toujours seconde. C'est évident, le Christ est premier. Il est premier dans l'ordre de la grâce, et alors c'est la primauté de la grâce du Christ dans l'ordre de la grâce, et Marie peut recevoir, parce que je crois que le Christ a communiqué à Marie tout ce qu'il pouvait communiquer.
Pas dans l'ordre ontologique, évidemment.
Mais pas, non, dans l'ordre de la grâce. Dans l'ordre de la grâce.
C'est pas l'ordre.
Oui, alors c'est l'ordre de la grâce, si. Hein. Je suis dans l'ordre de la grâce, pas dans l'ordre ontologique, pas l'union hypostatique, c'est bien évident.
Est-ce que Marie pourrait jouer son rôle de médiatrice de manière plénière ?
Oui, elle pourrait, ça. Je crois que c'est pas ce point de vue-là. On pourrait prendre les deux raisons. Oui. On pourrait dire, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que son rôle de médiatrice implique cela.
Donc elle pourrait, avec une plénitude de grâce moins grande, elle pourrait jouer le même rôle de
médiatrice. Oui, parce qu'au fond, la médiatrice n'est pas universelle. C'est universel, mais c'est limité à toutes les créatures. Et toutes les créatures, c'est limité. C'est-à-dire que la grâce, elle, n'est pas limitée. Oui ?
Il y a pas une faiblesse logique qui aurait dû à la notion de plénitude et celle de suffisance, parce que c'est finalement ça le...
Ah ! Attention ! C'est pas suffisant, ça.
Elle est suffisante, la grâce suffisante, la mission, tu viens d'entendre.
Non, oui, mais c'est attention. Hein. Saint Thomas prend la question de la ratio et du sujet. Vous voyez ? Alors, la ratio fait qu'on regarde la grâce en elle-même. Et du côté du sujet, c'est de voir comment la grâce vous sanctifie. Oui, alors, je crois que ce serait trop court de dire suffisant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, c'est trop court. Mais c'est par rapport au sujet. C'est-à-dire, le sujet est pleinement gratifié. Oui, pour la mission qu'il doit remplir et dans son regard de Dieu qui le prédestine. Autrement dit, c'est la sainteté. Alors, c'est pour ça que là, c'est très curieux de voir là, par rapport à Marie, je crois que c'est intéressant à voir ça. Donc, je relis. La bienheureuse Vierge est appelée pleine de grâce, non pas en raison de la grâce elle-même, tout à fait d'accord, qu'elle n'a pas eu à son plus haut degré et dont elle n'a pas mis en œuvre tous ses effets. Alors, c'est là où je dis attention. Si je prends tout simplement la différence de plénitude de grâce par rapport à toutes les étapes de la vie de la Très Sainte Vierge, Marie a été pleine de grâce dans toutes ces étapes. Mais elle a impliqué un devenir. Et donc, la plénitude de grâce de Marie a impliqué un devenir, tandis que la plénitude de grâce du Christ n'a pas impliqué de devenir. Moi, je crois que c'est la raison qu'on doit prendre pour bien distinguer les deux. Mais parce qu'elle a reçu la grâce qui devait suffire à cet état. Oui, alors, c'est suffire, je vois très bien. Attendez. Mais dicitur, fuit plena gratia, per comparationem ad ipsam. Vous voyez ? C'est ce qui me semble. C'est pas la suffisance. C'est per comparationem ad ipsam. Donc, c'est par rapport au sujet. C'est la traduction est mauvaise. Nous sommes tout à fait d'accord, la traduction est mauvaise. À cet état de mère de Dieu auquel Dieu l'avait appelée. Oui, mais c'est faisons attention, c'est après. Alors, suffisance peut s'entendre de deux manières. Et en français, si vous ne mettez pas ça avant, c'est mauvais. Oui, parce que la suffisance dans ce cas-là veut dire tout simplement qu'elle est parfaitement, complètement sanctifiée pour ce que Dieu lui demande. Hein? Pour ce que Dieu lui demande, pour sa mission. Alors, la suffisance, c'est pas la mission. Oui. C'est la finalité. Hein? Tandis que la suffisance regarde l'efficacité. C'est la différence.
La plénitude de grâce se prend par rapport à la capacité de recevoir. Parce que quand on dit que Marie, dès le point de départ, elle a une plénitude de grâce, et au terme, elle a une plénitude de grâce.
Oui.
Pour montrer donc qu'il y a.
Il y a un devenir. Oui.
Et pourtant, elle demeure une plénitude du
début. Toujours.
À la fin.
Toujours.
Est-ce que c'est parce qu'en Marie, il y a une capacité plus grande à la fin de recevoir cette grâce ? Donc, comment. D'où se prend la capacité de croître ?
Chaque fois que vous grandissez dans la grâce, vous avez une nouvelle capacité de recevoir la grâce. C'est une conséquence. Vous voyez ? Chaque fois que vous augmentez dans l'amour, vous avez une nouvelle capacité d'aimer plus. Et ça, c'est le propre de la croissance d'un habitus. L'habitus s'enracine toujours plus dans le sujet et rend le sujet plus capable de le recevoir. Oui. Donc il y a les deux aspects. Mais l'un est conséquence de l'autre. Oui.
Est-ce que c'est seulement au niveau de l'habitus. Parce que là, on est au niveau de la grâce.
Ben, de la grâce, c'est un habitus.
Oui,
ah, d'un caractère très particulier, je suis tout à fait d'accord.
Oui, il y a quand même la charité et la polyespérance qui sont des principes.
Je le prends du côté de son devenir. Du côté de son devenir, je ne peux pas le prendre autrement que l'habitus.
Alors, est-ce que ça ne montre pas, en fait, c'est vraiment un bon point de vue de Dieu d'augmenter cette capacité. Et il le fait dans la mesure, justement, qui correspond complètement à la grâce.
C'est comme ça que je dis que le premier regard de Dieu, c'est la grâce nous est donnée par Dieu gratuitement. Et cette grâce nous en est, augmente en nous notre capacité. C'est le second. C'est pour ça que je dis c'est le second. C'est le second, c'est pas le premier. C'est pas en vertu d'une capacité plus grande que Dieu augmente la grâce. C'est parce que nous donnant la grâce, il augmente en nous la capacité. Et donc chaque étape de la vie, de la croissance de la grâce, appelle une nouvelle étape. Jusqu'au moment où on atteint le terme. De même, on dit que saint Étienne était plein de grâce parce qu'il avait reçu la grâce qui convenait au rôle pour lequel il avait été choisi, d'être le ministre et le témoin approprié de Dieu. Et c'est de cette manière encore que l'on parle de plénitude de grâce à propos des autres saints. Néanmoins, parmi toutes ces plénitudes, il y a des degrés qui tiennent à ce qu'un saint a été prédestiné par Dieu à un état plus ou moins éminent. Eh bien, le dernier point, c'est la prédestination. C'est donc la volonté de Dieu qui est cause de la grâce. Et c'est vrai, on est prédestiné à tel degré de grâce. Et Marie est prédestinée à la plénitude de la grâce. Comme tous les saints sont prédestinés à la plénitude de la grâce. Mais Marie, d'une manière très éminente, parce qu'elle doit jouer ce rôle de mère. Mère de Dieu et mère de l'Église, et mère des hommes. Alors, seconde objection. En outre, ce que le Christ peut communiquer à d'autres ne semble pas devoir lui appartenir en propre. Mais comme l'écrit saint Paul aux Éphésiens, le Christ peut communiquer la plénitude de la grâce. Ça, c'est aussi très intéressant au point de vue de la participation. Dans le texte cité, l'apôtre parle de la plénitude de la grâce considérée du côté du sujet et par rapport à sa prédestination divine. Cette prédestination peut être commune et s'appliquer à tous les saints. Ou bien elle est plus spéciale et se rapporte à l'excellence de quelques-uns d'entre eux. Au premier sens, l'on peut parler d'une plénitude de grâce commune à tous, qui leur permet de mériter la vie éternelle, c'est-à-dire d'atteindre à la pleine jouissance de Dieu. C'est précisément cette plénitude que l'apôtre souhaite aux fidèles d'Éphèse. Donc là, je crois qu'on voit retrouver la même chose. Alors, dernière question, dernière objection. L'état de voix doit correspondre proportionnellement à l'état bienheureux. Mais dans l'état bienheureux, nous goûterons une certaine plénitude, car ainsi que l'écrit saint Grégoire, dans la céleste patrie, où se trouve la plénitude de tout bien. Quoique certains dons soient accordés d'une manière excellente, il n'y en a pas et qui soient possédés par un élu d'une manière exclusive. Par suite, dans l'état de voie, tous doivent posséder aussi la plénitude de la grâce. Et celle-ci n'appartient donc pas en propre au Christ. Les dons qui sont communs dans la patrie céleste, comme la vision, la possession et la jouissance, ont dans l'état de voie des dons qui leur correspondent et qui sont aussi communs à tous les saints. Mais il y a au ciel et sur terre certaines prérogatives qui sont particulières à quelques-uns et que tous ne possèdent pas. C'est très bien, on noie le poisson comme ça. Hein. On reconnaît tout simplement qu'il y a certains qui ont des prérogatives et les autres n'en ont pas. C'est très vrai. Diverses demeures dans la maison du Père. Le bon plaisir de Dieu. Et on est devant le bon plaisir de Dieu. Tout simplement. On regarde le point de vue de la prédestination. Et dès qu'on est en face d'une prédestination, le théologien ne peut plus rien dire. Hein. Il ne peut plus rien dire. C'est le bon plaisir de Dieu, c'est ça. Et là, on voit très bien, le raisonnement se fait à l'intérieur, vous voyez, d'une certaine zone du mystère de la prédestination. Mais c'est enveloppé du mystère de la prédestination, ça c'est sûr. Jésus est prédestiné à être fils bien-aimé du Père. Et c'est en fonction de cette prédestination de Jésus que tout cela peut être dit. Article 11. La grâce du Christ est-elle infinie ? Ça aussi, c'est une conséquence directe de ce que nous avons vu. Voyons tout de suite le corps de l'article. La grâce est quelque chose de créé dans l'âme. Mais tout ce qui est créé est fini. Selon cette parole de la sagesse, il a tout disposé avec nombre, poids et mesure. La grâce du Christ n'est donc pas infinie. Alors ici, vous allez voir la distinction de Jean de Saint-Thomas. Et c'est là où on voit très bien qu'il la prend, une fine pointe, elle est infinie et elle est en même temps finie. Tout dépend comment vous la regardez. D'après ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de distinguer dans le Christ une double grâce, l'une qui est la grâce d'union et qui consiste dans l'union au Fils de Dieu, accordée gratuitement à la nature humaine. Il est évident que cette grâce est infinie, comme la personne du Verbe elle-même. L'autre grâce est la grâce habituelle, et on peut envisager sous un double rapport. Premièrement, en tant qu'elle représente un certain être, habitus entitatif. En ce sens, elle est nécessairement un être fini, car elle se trouve dans l'âme du Christ, comme en son sujet propre. Or, l'âme du Christ, étant une créature, ne saurait avoir une capacité infinie. Et puisque l'être de la grâce ne peut excéder son sujet, il ne peut non plus être infini. Unde esse gratia, gratiae, cum non excedat sum subjectum. Non potes esse infinitum. C'est l'objet de la grâce qui excedat sum subjectum. Il faut tout de suite le dire, hein. C'est très très important. C'est très intéressant ça. Alors vous voyez ce que ça fait quand on emploie une méthode phénoménologique pour essayer de parler du Christ. Parce que la phénoménologie est commandée par l'essai, l'exercice. On ne peut plus saisir l'infini de la grâce du Christ. Ça, c'est des petites choses comme ça qui sont très intéressantes parce que ça nous montre tout de suite. Hein. Unde esse gratiae, donc soulignez ça. Unde esse gratiae, cum non excedat sum subjectum. C'est bien évident parce qu'elle est reçue dans son sujet. Donc l'essai de la grâce ne peut pas dépasser sum subjectum. À savoir quel est l'essai du sujet du Christ. Hein. Toujours, je reviens toujours à cette question. Non potes esse infinitum. Je ne conclue pas. Je vais simplement poser la question. Unde esse gratiae, ça c'est une petite phrase soulignée hein, trois fois. D'où l'essai de la grâce, comme il ne dépasse pas, non excedit, non transcendit, donc comme il ne dépasse pas son sujet, non peut-être esse infinitum. En second lieu, on peut considérer la grâce habituelle du Christ sous sa raison propre de grâce. Ratio gratiae. À ce point de vue, elle est infinie, parce qu'il l'imitait. Elle possède en effet tout ce qui appartient à l'essence de la grâce, sans aucune restriction. Et cela tient à ce que, dans le décret de la grâce de Dieu, auquel il appartient de mesurer la grâce, celle-ci est conférée au Christ comme un principe universel de justification pour la nature humaine. Selon cette parole de saint Paul, il nous a justifiés dans son Fils bien-aimé. C'est ainsi que nous pouvons dire que dans la lumière du soleil, que la lumière du soleil est infinie, non pas certes dans son être, mais comme lumière, en ce sens qu'elle possède tout ce qui appartient à l'essence de la lumière, à la ratio luminis, lucis, c'est mieux. Il faudrait corriger. Hein. Mais c'est très difficile de traduire. Il faudrait dire tout simplement qu'il appartient à la lumière comme telle. C'est beaucoup mieux que l'essence. J'aime pas du tout la traduction de la ratio-essence. Hein. Ça va pas du tout. Ne traduisons jamais, hein, ratio-essence. Je crois que c'est la scolastique qui fait ça. Non, ça ne dira pas l'essence. C'est pas l'absence. La ratio, c'est la réduplication. C'est la réduplication sur ratio gratiae, c'est savoir ce qu'est la grâce comme grâce. Vous voyez ? Donc on réduplique sur la grâce. Tandis qu'essence, vous voyez, tout de suite, essence, ça s'oppose à existence. Ça ne peut pas être autrement, vous voyez ? Alors on prend ça, c'est pas la même chose. Je comprends très bien, en scolastique, quand on dit essence, on veut dire ça. Mais dans le langage moderne, faisons grande attention. Et soyons plus précis. Donc, vous voyez, cette raison que donne saint Thomas ici est très très belle. Saint Thomas dit, la grâce d'union est infinie. C'est sûr. Elle est infinie, c'est pas autrement. C'est une relation qui nous lie directement à la personne divine, puisque ça nous relie directement à la personne divine, ça relie la nature humaine du Christ à la personne, et que cette personne est infinie, donc cette grâce d'union est infinie. Quant à la grâce habituelle, attention, de regard, la grâce habituelle en tant qu'elle qualifie le sujet, en tant qu'elle est un habitus. Donc elle est nécessairement créée. Elle est nécessairement limitée, puisqu'elle est créée. En tant que je regarde la ratio gratiae, la grâce comme telle, alors cette grâce comme telle, elle est infinie. Parce que rien ne la mesure. Elle est communiquée au Christ pour être justement principe universel de grâce.
C'est vrai pour nous aussi, parce que
dans
la grâce, la grâce habituelle, on peut la regarder en tant que
formelle. Oui, on peut la regarder formellement, d'une certaine manière, c'est vrai, d'une certaine manière.
Nous, il y a bien une capacité infinie.
Mais pas tout à fait la même chose, parce que vous n'êtes pas principe universel de grâce. Vous n'êtes pas principe universel de grâce. Vous voulez dire que votre grâce a quelque chose d'infini, mais il n'y a pas d'être infini. C'est comme votre intelligence, elle a quelque chose d'infini. Et la raison pour laquelle saint Thomas montre que la ratio gratiae du Christ est infinie, c'est parce que, de fait, elle doit être principe universel de grâce. Oui.
Cette infinie-là, c'est la plénitude.
C'est la conséquence. C'est la conséquence. Oui. C'est pour ça que la partie vient après. C'est directement la conséquence. C'est uniquement quand vous avez vu la plénitude en insistant sur le point de vue de la ratio gratiae, vous pouvez conclure immédiatement que cette grâce est infinie.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un infini qui est mis à devenir qualitatif ? C'est très gênant, parce qu'on est en train de parler d'une évaluation.
Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire que l'infini peut se comprendre de deux manières. Hein. Vous voyez ce que dit saint Thomas à propos de Dieu infini. Hein. Alors, et c'est là où il faut le prendre. C'est l'infini négatif ou privatif. C'est l'infini négatif, je dirais pas qualitatif. Vous voyez ? Quand saint Thomas se pose la question, est-ce que Dieu est infini dans son être ? Alors, il dit qu'il y a deux manières de considérer l'infini. Je peux considérer l'infini dans l'ordre de la quantité. Voilà, c'est l'infini privatif. Et je peux considérer l'infini qui qualifie une manière d'exister. Là, c'est un infini négatif. Ça, il n'y a pas de limite. Vous voyez ? Car celui-là exprime au contraire une suprême perfection. C'est-à-dire montre que l'essai du Christ n'est pas reçu. Ici, ça ne montre pas que la grâce n'est pas reçue, mais ça montre que la grâce est reçue d'une manière telle que être reçu ne limite en rien la ratio gratifiée. La coïmini de la participation. D'habitude, la participation est toujours reçue, et du fait qu'elle est reçue, elle est limitée. Ici, la grâce du Christ, elle est reçue, c'est sûr, mais elle n'est pas limitée. Alors, est-ce que ça ne rejoindrait pas que l'essai de la grâce est infini à cause du sujet, et que l'essai de la grâce, en réalité, c'est l'essai du Christ qui, lui, est l'essai du Père. C'est là où il faut regarder.